puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, retour sur le ciné-débat organisé à l'issue de la projection du film Nerve, une fiction sur les réseaux sociaux. Nous sommes à la MJC de Douai en partenariat avec le PDSAE du Nord pour discuter des jeunes et du numérique et des réseaux sociaux. Avec nous pour cette table ronde, Agnès Goulois, suppléante du député Dimitri Houbron, député de la 17e circonscription du Nord, circonscription de Douai, Fabienne Guénaud de la Fondation Orange, et Laurent Buzine, éducateur à l'EDPSAE du Nord. Tout de suite, quelques chiffres pour nous éclairer sur l'usage du net par les jeunes avec Fabienne Guénaud de la Fondation Orange.
Alors, on est clairement depuis 2012, et ça augmente fortement, et bien plus fortement depuis 2016, dans une génération qu'on appelle une génération hyper connectée. Alors, il faut savoir que 8 ans, déjà, c'est l'âge moyen de la première connexion à Internet, ce qui est très jeune. Et parmi les 11-17 ans, on a quand même 77% des 11-17 ans qui se connectent au moins une fois par jour. Et 89% de ces jeunes affirment qu'ils ne pourraient absolument pas se passer d'une connexion Internet ou d'un réseau social. Et le temps moyen passé, hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, c'est quand même, en 2016, on était en 2016, donc c'est pas, ça a moyennement changé, 14h10 par semaine de connexion en moyenne.
Vous, votre rôle, c'est de mettre les gens en relation via un outil, via du flux. Chez Orange, c'est ça, ça sert à ça. C'est comme quelqu'un qui construit une autoroute pour des axes de communication. Il n'est donc pas forcément responsable des accidents. Le fabricant de l'autoroute.
Alors, c'est vrai qu'on on fournit effectivement l'accès, le réseau, on fournit l'outil, qui est le mobile, le PC, mais aussi l'écran de télévision, parce qu'être connecté, c'est aussi sur un écran de télévision. Par contre, on n'est pas garant des contenus, puisque les contenus sont faits par des éditeurs de contenus, comme Google, les réseaux sociaux et autres. Par contre, on a le devoir de s'engager, et on a l'engagement d'expliquer et de, si les familles le souhaitent, de savoir quels peuvent être les dangers d'une hyper-connectisation, d'un usage addictif d'Internet et plus particulièrement des réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on a vu ce soir. Et on doit donner, en tout cas, des clés de compréhension de ce que font les ados, et comment se prémunir et protéger sa famille pour vivre ce monde numérique plus sereinement.
Alors, cette information, je vais aller la trouver où ? Si je veux avoir l'information.
Alors, on a créé un site qui est ouvert à tous, qui s'appelle, et je vous invite à le consulter, ça s'appelle Bien vivre le digital, tout attaché, ou alors pour les parents, espacedesparents.fr, où vous aurez sur ce site toutes les informations, ça va de la protection des données personnelles, de l'usage d'Internet et des conseils pour ses enfants, comment se protéger, des tutos pour bien configurer les outils pour éviter d'avoir des gros soucis. On en parlera peut-être tout à l'heure sur les dérives que peuvent amener ces consultations Internet. Et également des forums de discussion sur tous les sujets possibles.
Ces tutos, ce guide, c'est quoi ? C'est réservé aux abonnés Orange ou
sur Pas du tout, c'est sur moteur de recherche, c'est ouvert à tous.
D'accord.
Et c'est enrichi par des sociologues, des psychologues, des médecins, des pédopsychiatres, des experts du numérique. Donc c'est enrichi par des gens extérieurs à l'entreprise.
Autrement dit, si je reprends ma métaphore de l'autoroute, grosso modo, vous mettez des routes, vous les sécurisez. Si ensuite les voitures font n'importe quoi ou ne sont pas équipées de freins suffisamment performants, ce n'est pas de vos responsabilités. Là, c'est l'éditeur du contenu du réseau social qui engage sa responsabilité.
Oui,
c'est bien ça.
Mais également l'utilisateur. Si vous prenez votre volant avec 3 grammes d'alcool, ce n'est pas la voiture qui va être en défaut, c'est l'utilisateur lui-même. Donc il y a vraiment des précautions à prendre aussi sur comment on se comporte, parce que notre comportement sur les réseaux sociaux et sur Internet peut avoir de graves incidents au sein de son entourage, à titre personnel, et pour ses parents.
Agnès Goulnois, donc aujourd'hui, on voit que c'est une question dont le législateur s'empare avec des mesures. Première mesure, c'est la déconnexion des élèves, on en parlait, à la rentrée prochaine, qui doit être effective dans tous les établissements scolaires. Pourquoi ce n'est pas déjà le cas ?
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu récalcitrants là-dessus, malheureusement. Mais en effet, à la rentrée, logiquement,
qui
ça devrait être obligatoire.
Des gens, c'est vague.
Il y a quelques enseignants qui sont récalcitrants, parce qu'en fait, parfois, c'est un outil aussi qui est utile. Donc, certains disent que ça peut être utile. Mais en même temps, je pense, moi, que... Il y a d'autres moyens d'aller sur Internet que d'aller sur Internet avec le téléphone. Je pense que c'est une bonne idée d'interdire le téléphone à l'école. Voilà, à l'école élémentaire et aussi au collège.
C'est-à-dire que les règlements intérieurs des établissements scolaires devront être conformes à la loi.
Ça sera... Certains le font déjà, mais pas tous. Donc là, au moins, ce sera identique pour tous.
D'accord, donc dans tous les
tous les établissements scolaires.
Dans tous les établissements scolaires, chacun mettra la dispositif.
Jusqu'en troisième, oui.
Ouais, et chacun mettra le dispositif adéquat pour que...
Chacun devra le mettre, oui.
Voilà, pour que ça puisse être effectif. Mmh. Autre question, parce que c'est un bel outil finalement, Internet. Moi, je me souviens encore du temps où il fallait une bibliothèque énorme pour avoir le savoir. Aujourd'hui, on a accès à des tas de connaissances. On a également de temps en temps des rumeurs. Des fake news, on peut véritablement légiférer sur la chasse à la désinformation sur Internet. Et à quel moment on va placer le curseur ? Parce que dès qu'on met une limite à la liberté d'expression, on est à deux pas de franchir la frontière vers la censure. Voilà.
C'est vrai
comment on peut penser à tout ça ?
C'est vrai que c'est très compliqué et il est hors de question d'interdire aussi Internet. Parce que Internet est un outil formidable et chaque enfant à l'école l'utilise aussi d'ailleurs. Il est utilisé par les enseignants avec les enfants. En fait, ce que je pense qui est important, c'est qu'il faut apprendre à l'utiliser. C'est un outil qui peut être dangereux, mais c'est un outil qui est devenu obligatoire et utile. Le problème aussi, c'est par exemple Facebook. Normalement, Facebook est interdit, on n'a pas le droit d'être inscrit sur Facebook en dessous de 13 ans. Or, il y a beaucoup d'enfants, et on remarque que 60% des enfants de moins de 13 ans déclarent détenir au moins un compte sur un réseau social. 60% alors que c'est interdit.
Ouais.
Donc c'est pour ça que justement les législateurs ont décidé dernièrement avec un nouveau projet de loi qui est relatif justement à la protection des données personnelles dont vous parliez aussi madame, initié par le ministre de la Justice Nicole Belloubet et aussi par le secrétaire d'État Mounir Majoubi. Ça va obliger en fait les mineurs jusqu'à 15 ans, ça va les obliger à avoir l'autorisation parentale pour avoir un compte. Parce que jusqu'à 13 ans, c'est interdit, normalement. Et de 13 ans à 15 ans, pour l'instant, tout le monde peut y aller comme ça, mais ça sera déjà avec une autorisation parentale. Alors, c'est pas merveilleux. C'est pas, je veux dire, on vous donne pas une baguette magique et tout va devenir merveilleux. Mais je pense que le législateur essaye comme il peut de trouver des moyens pour agir. Mais tout n'est pas, comme vous disiez aussi, monsieur, tout n'est pas évident.
Fabienne, justement, ces 13 ans, d'où ils viennent ? Ils sont sortis de quel chapeau ?
Alors, en fait, il n'a pas été basé un âge par rapport à la maturité de l'enfant. Tout simplement, ça vient d'une loi qui est la loi COPPA. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais. C'est Children's Online Privacy Protection Act, qui interdit, en fait, aux entreprises de collecter les données sur des enfants de moins de 13 ans. Cette loi est sortie pour protéger déjà les enfants de toute sollicitation commerciale et pour éviter de récolter des données personnelles et d'en faire usage. Et donc c'est une loi qui dit que... Mais les réseaux sociaux, certains, on ne peut pas le faire, d'autres, c'est complètement ouvert, il suffit juste de mentir sur sa date de naissance.
Voilà, c'est sûr, il suffit de mentir.
Et demain, on pourra donc plus difficilement mentir.
Normalement, mais le problème, c'est que les parents sont complices aussi parfois. J'ai personnellement, je suis en même temps directrice d'école et dans ma classe, j'ai posé la question justement, combien d'enfants sont abonnés à Facebook ? Et ben, j'ai eu 6 élèves abonnés à Facebook. J'ai dit, mais tu sais que c'est interdit ? Oui, mais maman est d'accord. Donc en fait, je crois que ce qu'il faut aussi faire comprendre aux parents, c'est pourquoi c'est interdit et justement parce que c'est leur dire que c'est justement très dangereux.
Alors très clairement, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, ce n'est pas Orange qui le dit, mais ce sont les pédopsychiatres, les experts et les sociologues qui disent que 13 ans, en dessous de 13 ans, l'enfant n'a pas la maturité nécessaire pour se protéger et prendre conscience des risques auxquels il s'expose. Les risques, ils sont clairs, c'est harcèlement, racket, embrigadement, incitation au suicide, anorexie, pédophilie, etc. Et donc, ils n'ont pas la maturité nécessaire pour se protéger ou pour savoir... Quand ils font quelque chose, s'ils relaient une information, si elle est vraie, si un ami qu'il a accepté sur Facebook est un vrai ami, est-ce que c'est pas quelqu'un qui se cache derrière ?
Ciné-débat à la MJC de Douai avec le PDSAE du Nord, les adolescents et les réseaux sociaux. On se retrouve pour la suite de ce ciné-débat avec nos invités Agnès Goulois, suppléante du député Dimitri Houbron, Fabienne Guénaud pour la Fondation Orange et Laurent Buisine, éducateur à l'EPDSAE du Nord. La suite dans un instant dans La Puce à l'Oreille. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I've fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. How do I make you wanna stay? Hey, sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm fucked up and I'm missing you. Stop looking at me with those eyes, like I could disappear and you wouldn't care why. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm falling on my knees, forgive me, I'm a fucking fool. I'm begging, darling, please absolve me of my sins for you. Falling on my knees, forgive me, I'm a fucking fool. I'm begging, darling, please absolve me of my sins for you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh.
Radio Scarp Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Adolescents et réseaux sociaux, c'était le thème d'un ciné-débat organisé par la MJC de Douai et le PDSAE du Nord. Retour sur ce ciné-débat avec Agnès Goulois, suppléante du député Dimitri Houbron, Fabienne Guénaud de la Fondation Orange, Laurent Buzine, éducateur à le PDSAE du Nord.
Moi, je suis d'une génération où le rite de passage, c'était la mobylette. Il n'y avait pas Internet, hein. Ça finissait en rite également. Aujourd'hui, le rite de passage, c'est quasiment le portable et ton forfait qui va bien derrière. Parce qu'on adapte quand même les forfaits aux familles. Et que même si finalement, on dit, ouais, il faut protéger l'enfant, on met sur le marché quand même des offres commerciales pour que les enfants bénéficient. Tout de même, il faut avoir la décence de l'avouer. Voilà, on dit, c'est interdit au moins de 13 ans, mais on vous fait profiter d'un forfait famille. Rassurez-vous, tout le monde pourra profiter, y compris les enfants. Donc, il y a quand même un double langage qui est tenu.
Ben, alors, ce n'est pas un double langage. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin de savoir et on a la chance de pouvoir savoir, de pouvoir joindre nos enfants quand on peut, quand on veut. Ils vont à l'école. Les familles travaillent de plus en plus souvent tard. Les enfants rentrent seuls. Et c'est un moyen formidable de pouvoir être en sécurité. Après, c'est de la responsabilité des parents et pas des opérateurs de savoir bien gérer et d'expliquer à son enfant combien bien gérer, de passer un appel ou un SMS, c'est légèrement moins dangereux, à moins que ce soit abusif, bien évidemment, que les réseaux sociaux. C'est le même parallèle qu'on ne va pas leur faire manger de la junk food tous les midis, on va les faire manger équilibré. Ben, c'est pareil, c'est une question d'éducation, en fait.
À propos d'éducation, il y a aujourd'hui, à chaque ministre de l'Éducation, sa réforme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend pour que ça soit véritablement inscrit, ça, cette éducation aux nouvelles technologies, aux médias et à l'usage des réseaux? Pourquoi c'est toujours pas inscrit au programme de l'éducation nationale? C'est compliqué, ça? Parce que ce serait quand même beaucoup plus utile de faire ça que de dire on va interdire le portable à l'école.
Alors, dans les programmes de l'éducation nationale, il y a quand même cette notion-là, puisque même à l'école élémentaire, on demande aux enseignants d'avertir les enfants, justement, sur les dangerosités d'Internet. Après, on a ce qui est écrit dans les textes et ce qui est après possible dans les écoles, parce que dans certaines écoles, on a toujours le même problème de pas de connexion Internet, pas assez. On est très en retard. Moi, j'ai l'impression que finalement, l'école, là-dessus, sur tout ce qui est Internet, ordinateur, est à un monde par rapport à la vie réelle. Donc, c'est ça aussi le problème.
Il faudra peut-être que le législateur se pose quand même pour que clairement ce soit inscrit tôt ou tard dans les programmes, peut-être en 5e ou en 6e, en fonction de l'âge de l'enfant, pour que du moment où il est en mesure de l'appréhender, il soit véritablement éclairé.
Je pense que c'est une bonne idée, en effet, et je pense que Je vais faire remonter ça aussi, modestement, à notre député, parce qu'en tant que suppléante, moi, je n'ai pas accès directement à l'Assemblée nationale, mais lui-ci. Et je vais lui faire remonter cette demande. Je pense qu'en effet, que c'est une bonne idée de former plus les enfants, tout au moins au niveau du collège, avec des intervenants qualifiés.
Laurent, en qualité de professionnel de l'accompagnement, les jeunes hyper connectés, ça a changé la relation qu'on peut avoir? Et puis, est-ce qu'on peut partager les mêmes réseaux sociaux que les jeunes que l'on accompagne? Est-ce que les parents, selon toi, doivent être potes sur Facebook avec leurs enfants? Est-ce que ça ne trouble pas un peu la place de chacun entre l'adulte, qui peut être le référent, et l'enfant? Est-ce que ça, les frontières ont bougé?
Bah un petit peu, parce que finalement, ce qui pose question, c'est qu'ils sont bien plus informés que nous. Qui n'a aucun réseau social ici? Félicitations. 3, 4 des adultes. Chez les jeunes, tout le monde a au moins un réseau social. Voilà. Enfin, moi, je lève la main, j'en ai pas non plus, mais il va falloir que je m'en fasse un, parce que j'ai mes enfants qui mettent la pression.
Ouais.
Mais ce qui a changé, moi, dans mon...
Ils ont quel âge?
10 et 6.
C'est pas normal, ils devraient attendre d'avoir 13 ans.
Ma fille rentre au collège l'année prochaine et elle aura déjà son portable.
Et ouais.
Sauf si c'est interdit, justement.
Elle pourra le remettre, mais la question de l'interdiction, elle a déjà été... On l'a abordé avec une jeune fille qui est au collège, je crois que c'était l'émission de radio, c'était au collège Châtelet, où ils ont fait un carré bleu au milieu de la cour d'école pour avoir un espace délimité. Oui. Et donc, il y a déjà des choses qui sont en réflexion, mais c'est vrai que cette question du portable au collège, ou même après, voilà, pour les lycées, elle se pose aussi, parce que ce qui a changé, pour te dire, c'est qu'avec les jeunes avec qui je travaille, ce sont les parents qui sont plus connectés. Ce sont les parents qui sont souvent sur les réseaux sociaux, bien plus que les enfants. Alors au début, ils disent non, moi je veux pas de flamme, ça m'intéresse pas. Et puis, vrai, pas vrai. Et puis, ils commencent un jour sur Snapchat, une flamme. Donc une flamme, en fait, c'est si on a tous les jours une réponse. Et puis un jour, on n'a plus de flamme et là, la vie, elle s'arrête, quoi. Mais pas que pour les enfants, pour les adultes aussi. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est que je me suis posé la question, est-ce que, du coup, maintenant, quand on a 16 ans, 17 ans, qu'on va chercher un stage, le maître de stage ou l'entrepreneur, quand on cherche un contrat d'apprentissage, il googlise le nom tout de suite. Il va aller voir un peu qui on est. Et je ne l'avais pas fait, quoi. Bon, je suis allé voir, je n'ai pas trouvé de dossier de compromettant. Mais
tu t'es auto-googlisé.
Je me suis auto-googlisé, quoi. Et je me suis dit que c'était fondamental de savoir un petit peu la limite avec sa vie privée, quoi. Qu'est-ce qu'on peut savoir de nous? Qu'est-ce qu'on peut connaître de nous? Parce que ce qui a changé, moi, dans ma pratique, c'était aussi l'immédiateté et puis la précarité de ce qu'on peut donner à voir de sa vie via les réseaux sociaux. Je connais des gens, des enfants, qui ont quitté l'école parce qu'ils étaient harcelés par les réseaux sociaux. Je connais des gens qui sont allés voir si moi j'avais un Facebook ou qui pouvaient très bien aller... J'avais une collègue, quand elle vient un matin, à papa lui dit « Alors, c'était bien telle sortie, machin, comment elle pouvait le savoir ?» Parce qu'il était ami d'un ami d'un ami. On est adulte professionnel, on n'était pas barré pour ça, quoi. Et puis, surtout, quand on a préparé ce ciné-débat, on a fait plusieurs réunions avant, il y a une jeune fille qui nous a apporté son témoignage tout à l'heure qui dit « Mais attendez, mais pourquoi vous avez peur à ce point-là des réseaux sociaux, quoi ? C'est formidable !» Je veux faire une fête surprise, je fais un groupe d'amis sur Facebook, on communique comme ça, après le groupe il disparaît. C'est vous les adultes qui n'avez pas encore le bon usage et la bonne connaissance de ces réseaux sociaux. Et c'est aussi un petit peu ça qui vient un peu percuter dans nos pratiques, l'immédiateté et puis qu'est-ce qu'on donne à voir de sa vie privée réelle dans le réseau social, mais aussi dans la vraie vie, quoi.
Et puis c'est vrai que ça permet également... aujourd'hui, des mobilisations de solidarité très fortes. C'est l'usage qu'on va en faire. On pense à ce jeune Malien qui a été relayé sur tous les réseaux sociaux possibles. Je pense que si les images n'avaient pas circulé, son action n'aurait pas été saluée à la hauteur. Et puis, pour lui, la situation n'aurait pas... Donc, on s'aperçoit également ce qui provoque quand même un geste présidentiel exceptionnel au regard d'une politique menée. Enfin, ça a des conséquences, ça influe. Et ça, on peut passer et faire... bouger les lignes, tout dépend également de l'action qu'on y met derrière. Quelques questions, Fabienne, sur la e-réputation, justement. Là, encore une fois, ce n'est pas l'opérateur qui est tenu de faire disparaître, c'est véritablement le réseau social qui...
Même en tant qu'opérateur, on est déjà employeur. Donc, voilà. Et donc, la e-réputation, il faut savoir que les jeunes n'ont pas souvent le réflexe, puis même nous, de restreindre la visibilité des publications qu'ils font. Alors, c'est fait des selfies, on fait des photos dans sa chambre, on se fait prendre en photo quand on n'est pas très frais. Voilà. Et donc, du coup, on publie sur les réseaux sociaux ou on se fait publier sur les réseaux sociaux sans le savoir. Et vu que la personne qui a publié, elle a 1000 amis, les 1000 amis en ont 1000 aussi, ou 200, et on se retrouve au vu de 10 000 personnes sur d'autres réseaux sociaux, sur Google. Et très clairement, la première chose que fait un employeur aujourd'hui, quand il a un stagiaire, un stage collégien, un stage lycéen, un premier emploi, un CDD, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir 4 choses. Google, il tape votre nom, prénom. Snapchat, il va regarder. Facebook, Twitter. Et il fait les 4. Et il regarde. Et vous seriez surpris de savoir ce qu'on peut retrouver, puisque le droit à l'oubli sur Internet existe depuis peu de temps, mais des années et des années à aboutir. Et donc, ça peut avoir un effet dévastateur. Donc, la e-réputation, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il faut faire attention. Il y a des astuces pour s'en prémunir, simples, mais il faut le faire.
Et quelques mots également sur... cet outil qui peut être très rassurant pour les parents, qui est la géolocalisation, parce que c'est bien, mon gamin part avec le portable, je peux savoir où il est, ce qu'il fait. Néanmoins, il faut penser de temps en temps également à couper ça, parce que c'est également quelque chose qu'on ne pense pas forcément à désactiver.
Ben, ce n'est pas qu'on ne pense pas à désactiver, c'est que par défaut, la géolocalisation sur certaines applications dans Snapchat est activée. Donc très clairement, on peut voir où vous êtes, ce que vous faites, et on a des recrudescences de cambriolage, puisque les jeunes se filment dans leur chambre, chez eux. On peut vous repérer sur Snapchat. On donne des informations sur sa vie, sa famille. Et je pars en vacances la semaine prochaine avec mes parents à tel endroit. Bah, super, on sait où vous habitez. Et quand vous venez de vacances, surprise. Autre cas qui est plus compliqué, les mauvaises rencontres. Puisque quand on est géolocalisable, un ami qui peut ne pas être un ami, c'est exactement où vous êtes, dans quelle école vous allez. Puisque dès que vous faites une photo à Snapchat, on vous localise à l'endroit. Donc ben, on sait où vous êtes et les mauvaises rencontres existent. Et c'est souvent dû à ces géolocalisations. Donc il y a des astuces également pour s'en prémunir. Here's the sum total. One gang could run this city. One gang. Nothing would move without us allowing it to happen. We tax the crime syndicates, the police, because we got the streets, suckers!
Radio Scarpe Sensée, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Dernière partie de notre émission et nous retournons à la MJC de Douai. La MJC de Douai qui est organisée en partenariat avec le PDSAU du Nord, un ciné-débat après la projection du film Nerve sur le thème adolescent et réseaux sociaux. Pour débattre avec nous, Agnès Goulois, suppléante du député Dimitri Houbron, député de la 17e circonscription. Agnès Goulois qui était également directrice d'école primaire. Fabienne Guénaud de la Fondation Orange et Laurent Buisine, éducateur à l'EPDSAE du Nord. Et nous évoquons le cyberharcèlement.
Il y a 700 000 élèves qui sont touchés par du harcèlement à l'école, qui se poursuit sur les réseaux sociaux, qui ne les quitte plus, même pendant la nuit. Et ça va à des conséquences dramatiques. Et il y a quand même 700 000 enfants touchés par... déclarés, hein, comme avoir eu un acte de cyberharcèlement.
Pourtant, c'est sanctionné pénalement. Et d'ailleurs, la loi va être modifiée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'actuellement, les actes de harcèlement en ligne qui sont menés par une seule personne de manière répétée, par un même individu de manière répétée, sont sanctionnés. Mais maintenant, il va y avoir en plus quelque chose dans la nouvelle loi qui va améliorer ceci. On va sanctionner le harcèlement en groupe. En fait, ça permettra de mieux sanctionner ce qu'on appelle les raids numériques. C'est-à-dire, il y a des victimes parfois qui sont submergées, je crois que c'est comme vous, mademoiselle, de messages sexistes ou haineux par différents internautes, pas seulement par une seule personne. Parce qu'une seule personne, c'était sanctionné, mais quand il y en avait plusieurs, c'était difficile. Et le nouveau texte va aussi sanctionner. Quand vous, les jeunes, parce que c'est souvent les jeunes, sans vous en rendre compte, vous trouvez ça drôle parce qu'on a dit un tel, oui, aujourd'hui, il avait fait ça, c'est très drôle, t'as vu, une photo, etc. Puis tout le monde y va, tout le monde rajoute et tout, mais moi, je n'ai rien fait, j'ai juste mis un petit mot en plus et tout, mais ce n'était pas moi, c'était l'autre au départ. Et bien, en fait, vous allez être pénalement aussi, vous pouvez être pénalement sanctionné. Donc, il faut absolument que vous preniez conscience de ça, que si vous participez, vous, les jeunes, ou les moins jeunes, hein, mais c'est souvent les jeunes, une cabale contre une personne, vous pouvez aussi maintenant, dans la nouvelle loi, être sanctionné pénalement. Donc faites très attention à ça aussi.
Voilà, aujourd'hui, on rencontre également des gens qui nous disent, là-dedans, il y a tout ma vie. Il y a les photos, il y a mes comptes bancaires, il y a mon suivi, il y a mon GPS. Si je perds ça, j'ai plus rien. C'est également quelque chose à dire. Il y a d'autres outils que cet outil-là qu'il faut peut-être mettre en œuvre. Et enfin voilà, on n'est pas obligé d'utiliser.
En fait, cet outil, c'est un formidable outil. Ça a révolutionné la vie de beaucoup de personnes. Après, c'est comme tout, c'est comme la télé. Si on la regarde 50 heures ou 60 heures par semaine, ben on ne sort plus, on s'isole, on ne fait plus de sport, on reste enfermé. Il faut surtout pas... ce n'est pas une mauvaise chose, Internet. Ce n'est pas une mauvaise chose, les réseaux sociaux. Bien évidemment que non, puisqu'on maintenant, ce sont même des nouvelles façons de trouver du travail, les réseaux sociaux, et ça marche très fort. Donc non, c'est un formidable outil. Par contre, il faut juste adopter les bons gestes et savoir 5 choses principales. Moi, je peux vous les donner. Il y a 5 choses assez simples. C'est spécifique aux réseaux sociaux. Il ne faut accepter comme ami que les personnes que l'on connaît vraiment. Mais vraiment, on le connaît, on sait qui c'est. Ce n'est pas un ami d'une amie, d'une amie, ou voilà. Ne pas oublier, évidemment, qu'on est connecté sur une session de se déconnecter, parce que c'est un outil numérique. Il faut surtout régler ses paramètres de confidentialité, de sorte à cibler la diffusion des informations qu'on met en ligne. Ça, c'est extrêmement important. On est responsable de tout ce que l'on met en ligne. On est même responsable de publier une photo sur laquelle on n'a pas payé des droits d'auteur. Est-ce que quand vous prenez une photo d'un site qui est soumis à droits d'auteur, vous dites « Oh, elle est jolie, tiens, je fais une capture d'écran, puis je l'ai mis sur les réseaux sociaux, elle est super. » Est-ce que... Il y a des choses qui sont... Voilà. Évidemment, il faut surtout bien réfléchir avant de publier un statut, une photo, une vidéo qui pourrait compromettre sa réputation, celle d'autrui et celle de sa famille, pour aujourd'hui mais pour l'avenir, et ne pas publier plus d'informations personnelles que nécessaire. Et surtout garder à l'esprit que toute publication, comme je l'ai dit, laisse des traces.
Ce qui compte, c'est de bien paramétrer ça, d'accord ? Parce que c'est un bel outil. C'est bien le progrès, hein.
Avec ça, on soigne des tas de gens, on crée des médicaments. Moi, quand je prends un médicament pour me soigner, j'ai une posologie, j'ai des effets indésirables qui sont livrés dans une notice. Quand je vais chercher ça chez n'importe quel opérateur, on me donne ça et j'ai aucune notice. Hein. J'ai pas de mise en garde. Pourquoi il n'y a pas de mise en garde sur des choses qui peuvent, aujourd'hui, simplement être du bon sens que de prévenir que, au moins, on puisse, si on n'est pas capable d'aller fouiller là-dedans pour paramétrer correctement, et c'est parfois assez compliqué. Moi, j'ai demandé l'aide de mon gamin de 20 ans pour me paramétrer le truc, quoi. Ça, je ne comprends pas non plus. On n'a pas de manuel, on n'a pas de notice d'utilisation quand on achète aujourd'hui un outil numérique.
Ça, ce sont les constructeurs d'outils, voilà. Donc après il y en a des notices, elles sont, alors faut demander aux fournisseurs comme Apple ou Samsung, faut en citer trois, et
Nokia.
Vous allez sur leur site, évidemment il y a des notices. C'est comme une voiture, on va vous donner une notice, vous dire où est-ce qu'on met la clé, comment on la démarre, mais on se prémunit pas de vous dire il faut que vous ayez un alcotest dans la voiture, il faut que vous mettiez votre ceinture de sécurité. Ça c'est pas une notice, mais ce sont des conseils et de configurations. Et ça, vous les retrouvez, et ça, c'est pour tous les opérateurs, peu importe, vous les retrouvez sur le site qu'on a créé, qui est Bien Vivre le Digital, où vous avez toutes les informations possibles et inimaginables sur comment bien configurer ses comptes, comment bien gérer sa réputation, qu'est-ce qu'il faut faire, tous les conseils, tout est sur Internet.
Alors, on redonne l'adresse. Alors,
c'est Bien Vivre le Digital, ou alors vous tapez plus simplement, vous y penserez, ce sera plus facile, Espace des parents. Dans un moteur de recherche, Google ou autre, espace des parents, et vous avez toutes les informations.
Voilà. Le but, c'est de vous donner également la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, ou des retours d'expérience, parce qu'on a pas mal de professionnels également. Voilà.
Tu disais tout à l'heure que parmi l'Assemblée, combien avaient un réseau social ? Et certaines personnes ont dit que non. Alors que je peux vous affirmer que tous, ici, vous avez un réseau social.
Qui n'est pas numérique.
Voilà. Qui n'est pas numérique. Parce qu'il y a le réseau social et le réseau social de l'Internet. Et des fois, on l'oublie.
Alors, un petit témoignage ici d'un collègue.
Alors, c'est pareil. Moi, je voulais revenir sur le fait des paramétrages. Alors c'est très important, et aussi surtout ne pas oublier de ne pas partager ces mots de passe, parce que les jeunes entre eux partagent leurs mots de passe de comptes de réseaux sociaux, de boîtes de messagerie. Alors le temps que tout va bien, le jour où il y a justement un souci dans l'amitié ou dans la relation amoureuse, que l'autre connaît justement les identifiants, il y a pas mal de choses qui peuvent être partagées aussi derrière. Et nous, on a eu l'occasion d'avoir une jeune fille dans cette situation, où après il est très très compliqué de pouvoir les rattraper, enfin récupérer les mots de passe, parce que les mots de passe de la boîte mail avaient été changés. Donc pour dire de rechanger après, enfin l'identifiant, pouvoir enlever les photos qui étaient sur eux, sur le site, faire appel après à la plateforme, c'est d'un compliqué. Après il y a pas mal de choses qui passent.
Et sachez quand même, c'est important, c'est que tous, vous êtes responsable évidemment de tout ce que vous publiez, mais en dessous de 16 ans, ce sont vos parents qui sont responsables de tous les actes que vous faites. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous engendrez la responsabilité de vos parents pour des choses que vous pouvez faire. Donc, faut penser aussi à eux.
Je voulais parler parce que la dame, elle disait qu'il y avait des gens, par exemple, pendant une relation amoureuse sur les mots de passe, mais aussi, par exemple, tu es amoureux, tu envoies une petite photo, pas très catholique, on va dire.
Ouais.
Et puis il commence pas, ça y est, c'est fini. Et la photo, elle se fait partager, c'est le revenge porn. Et ça arrive beaucoup, et j'avais vu des chiffres, c'est souvent, même à l'école primaire, que ça arrive.
Ouais.
Ça s'appelle le revenge porn.
T'as déjà été...
Non, mais voilà. Je connais quelqu'un qui a été harcelé par ça.
Ouais. Mais il faut faire très attention, de toute façon, aux photos que l'on va poster. Là, c'est également la liberté d'expression, c'est-à-dire que si moi je prends une photo ce soir, d'accord, à votre avis, je prends une photo de la salle et je la publie, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas ? Eh bien, j'ai le droit de le faire. Parce que vous êtes dans une réunion publique, dans un lieu ouvert, et je n'ai pas besoin de vous demander. Voilà. Par contre, si je commence à identifier quelques personnes et pas les autres, j'ai pas le droit de le faire. C'est, voilà, faut bien comprendre. Hein. Ou j'identifie tout le monde, ou alors je mets une photo de groupe et je dis c'était ce soir. Et j'ai le droit parce que la réunion, elle est ouverte, elle est publique. Vous vous promenez, voilà. Si jamais vous me voyez prendre la photo, mais que vous m'interdisez de la poster, je n'ai pas le droit de la poster. Tout à l'heure, je posais la question, cet après-midi, à la séance, au policier qui était là. Je lui disais, mais moi, par exemple, si je suis témoin d'une agression dans la rue, je filme l'agression en me disant c'est une preuve, j'ai le droit de filmer l'agression. Si je la publie, là, je deviens quelqu'un dont le geste peut être assimilé à de la complicité. Parce que l'interprétation peut être, voilà, regardez, faut se battre, machin et tout. Tandis que si je filme, que je ne publie pas et que je vais donner simplement l'enregistrement aux policiers, à la justice, voilà, eux pourront l'exploiter, mais je ne l'ai pas publié. C'est vraiment la grande différence. Vous avez le droit d'enregistrer des choses, vous avez le droit de les avoir. Le fait de les rendre publics, c'est quelque chose de totalement différent. Je ne sais pas si on a des directeurs d'établissements scolaires ici, ce soir, avec nous. Il me semblait, non, oui, peut-être.
Moi.
Vous. Ah ben voilà. Là, on va parler donc à... c'est une école c'est
une école élémentaire.
Une école élémentaire. Moi, aujourd'hui, je m'aperçois également qu'il y a des collèges, des lycées, des écoles qui créent leur page Facebook. C'est votre cas ou pas ?
Non, c'est pas mon cas, mais c'est très, très, très encadré. Notre inspectrice, on a des consignes très, très strictes. On n'a pas le droit de mettre... Normalement, à chaque fois qu'on met une image d'un enfant, si c'était un enfant, on préfère ne pas en mettre, comme ça, c'est plus simple. Mais si on met une image d'un enfant, on doit avoir l'autorisation pour cette image-là. Et on n'a pas à avoir une autorisation générale pour l'année. On le fait aussi, mais en fait, normalement, on devrait avoir une autorisation à chaque fois qu'on met quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on évite. On fait des photos floutées. Enfin, moi, je n'ai pas de Facebook pour l'école, ni de site internet, mais ou bien on photographie les objets des enfants, les
justement que de mettre en œuvre un site, une page, un réseau, c'est pas une forme également de se dire voilà, vous allez avoir accès à ce réseau, et donc on éduque par l'exemplarité du site de l'école les plus jeunes.
Sites-là, justement, c'est très contrôlé. On ne peut y aller qu'avec des... les parents peuvent y aller avec des codes, etc. C'est pas quelque chose de public. On n'a pas le droit, tout au moins à l'école élémentaire, je ne sais pas pour le collège, mais pour l'école élémentaire, c'est ça. On n'a pas le droit d'y aller comme ça. Et les parents ont un système, c'est un peu le principe de NT, hein, en fait, avec un code, ils peuvent aller voir s'il y a des choses... vraiment qui concerne l'école, et même parfois même uniquement la classe même.
Parce que moi j'ai quand même été stupéfait
de
voir que ma fille en classe de terminale communiquait avec ses camarades de classe et ses professeurs via Facebook. Voilà. Et que dans les DM qui étaient un peu compliqués, ils avaient créé les groupes et que le professeur intervenait au milieu de tout ça. Donc il y a une accaparation. Enfin, c'est une façon de prendre l'outil du bon côté. Parce que
C'est un outil pédagogique. C'est un outil formidable de discussion, d'échange, s'il est utilisé à des fins sereines.
J'ai perdu Laurent.
Je suis là.
Il y a encore des questions dans la salle, des témoignages peut-être.
Bonjour. Donc, il faut quand même dire, au niveau de Facebook, c'est vrai que c'est un leader mondial. Hein, qui ne connaît pas Facebook ? Nous, on accompagne des jeunes aussi, des MNA, des mineurs non accompagnés, donc qui utilisent quasiment tous Facebook pour pouvoir garder un lien, du coup, avec leur pays d'origine, pour pouvoir s'informer, pour pouvoir aussi rassurer donc des personnes qui connaissent, qui sont restées au pays, en disant que bah, ils vont bien, qu'ils évoluent. Et on a eu le cas donc d'un jeune qui, pour lui, ça lui a été un peu préjudiciable, dans le sens où tout le monde a accès, en effet, à Facebook. Il était reconnu mineur et, en fin de compte, ils l'ont vu au niveau de la sous-préfecture, comme quoi il était au volant d'une voiture. Et du coup, ils l'ont reconnu majeur. Rien que sur le fait qu'ils se sont basés sur une photo. Et bon, après, il faut voir aussi hein, au niveau du pays, ils conduisent forcément aussi plusieurs sans permis, tout ça. Et du coup, ça lui a été préjudiciable à ce niveau-là.
D'autres témoignages, réactions ?
Oui, bonsoir. Bah, juste une remarque. Je trouve les réseaux sociaux dans une famille, on dit il y a les parents et les enfants, etc. Mais je trouve, bon, entre ados, moi j'ai une fille collégienne, donc voilà, Snapchat et tout ça, j'y connais rien, mais elle m'a dit bien.
Elle gère.
Elle gère très bien, ouais. Je trouve ça un peu ridicule, rajouter des oreilles de chat, etc. Enfin bref, ça c'est pas mon truc, quoi. Mais je trouve que ça renforce aussi la difficulté de communication dans la famille. C'est-à-dire que les parents ont leur propre loisir, leur propre univers, leur propre Facebook, les enfants aussi de leur côté, et les temps partagés peut-être au sein d'une famille, du coup, il n'y en a peut-être plus. Moi, je vois par exemple un rituel de mettre un film ensemble. Moi, j'ai de la difficulté à mettre ça en place parce que les enfants sont dans leur chambre avec leur portable.
Il faut leur envoyer un texto pour leur dire
voilà, de descendre. Mais alors du coup, tout le monde a un réseau social, a plein d'amis, etc., virtuels. Mais je trouve que ça renforce les difficultés de communication intrafamiliale, en fait.
Donc, il ne faut pas oublier que tous les réseaux sociaux et tous les sites internet sont reconnus d'un lieu public. Et que de ce fait, tout ce qu'on met dessus, moi je m'en sers aussi pour mes employés, je ne me cache pas. Avant d'embaucher quelqu'un, je vais voir sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que ça nous garantit un petit peu, nous aussi, de nous protéger. Parce que à cause de tous ces moyens de communication, qui est très bien, puisque moi, sans Internet, je ne peux rien faire, et les gens sont plus honnêtes, ils sont plutôt malhonnêtes, et du coup, malheureusement, on ne peut plus compter que par soi-même, ou les gens vraiment qu'on a confiance, la famille proche.
Parce voilà. Que cachés derrière l'écran, ils se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient peut-être pas dans la vraie vie. Est-ce que vous vous auto-googlisez également ? Est-ce que vous avez une veille sur votre e-réputation ?
Moi, il n'y a rien dessus, puisque je mets tous mes paramètres. Enfin, j'essaye de protéger au plus.
Mais vous n'avez jamais fait le contrôle ?
En tout cas, on ne voit rien. J'ai changé déjà mon nom de famille. Sur Facebook, j'ai changé mon nom de famille. Donc, comme ça évite qu'on me retrouve.
Donc vous n'avez pas votre véritable identité sur Facebook.
Non.
Adolescents et réseaux sociaux, c'était un ciné-débat organisé par la MJC de Douai et l'EPDSAE du Nord avec Agnès Goulois, Fabienne Guénaud et Laurent Buisine. Merci de votre fidélité. À bientôt sur Radio Scarpe Sensée pour une nouvelle édition de La Puce à l'oreille.
La Puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La Puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.